Allô?
Vous écoutez le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse et présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022. À chaque épisode, je rencontre deux écrivaines et écrivains, membres de l'AEQJ, pour qu'ils me présentent un de leurs livres. Nous aborderons ensemble certains sujets en lien avec la littérature jeunesse. Je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, je m'entretiens avec les récipiendaires du prix Cécile Gagnon, qui abordent toutes deux des sujets sensibles avec beaucoup de délicatesse. Élisabeth Barry-Lessard nous parle de son roman « Ma vie de gâteau sec », tandis que Martine Harpin nous parle de son album « Thomas », et elles m'expliquent toutes deux ce que le prix Cécile Gagnon représente pour elles. Mais tout d'abord, je rencontre Manon Plouffe, qui nous présente son roman « Coup de poing, un cœur en cage », paru tout juste avant le début de la pandémie. Elle m'explique tout le travail qu'elle a fait pour ce roman, qui a malheureusement connu une brève vie en librairie. Nous espérons lui donner un second souffle. Bonne écoute! Native d'Amos, Manon Plouffe habite aujourd'hui Laval. C'est la lecture d'Alice au Pays des Merveilles, vers 9 ans, qui l'a amenée à vouloir inventer des histoires de toutes sortes. Après avoir obtenu un baccalauréat en études littéraires et un autre en traduction, elle a travaillé comme rédactrice publicitaire, traductrice, secrétaire et auteure. Elle a 23 publications à son actif, destinées surtout aux 9 ans et plus. Dans sa tête se bousculent de nombreuses histoires destinées aux enfants, petits et grands. Bonjour Manon, j'espère que ça va bien.
Bonjour Amélie, oui, ça va très bien, et toi aussi?
Oui, très bien, merci. Alors, on va parler de ton roman « Un cœur en cage ». J'aimerais que tu nous parles de l'histoire.
L'histoire, c'est l'histoire de deux amis, Mina et Satie. C'est deux adolescentes de 15 ans qui ont quitté l'Inde avec leur famille pour venir s'établir à Montréal quand ils avaient 4-5 ans. Puis là, ils vont à l'école secondaire, puis ils commencent à penser, prendre leur place dans la société, comme c'est normal. Mais l'intégration est particulièrement difficile pour Mina parce que Mina vit dans une famille qui est très attachée aux traditions, contrairement à son amie Satie qui vit dans une famille plus ouverte, qui s'est parfaitement intégrée à la société québécoise. Puis là, il y a un piège sournois qui se referme peu à peu autour de Mina quand elle tombe amoureuse d'un jeune Québécois.
Oh oh.
Ça, c'est la base de mon roman.
Fait que là, il y a une espèce de clash entre les valeurs.
Oui, mais ça va plus loin que ça, parce que le roman est écrit, c'est comme un roman à deux narratrices. Okay. La première partie, c'est la partie de Mina. C'est comme si Mina, elle écrit un journal, son journal, mais elle écrit très, très peu. Et pour ceux qui seraient intéressés à lire le livre, elle omet beaucoup, beaucoup de choses.
Ah oui.
Elle dit des choses, puis c'est vrai, mais elle oublie de dire des choses qui sont très importantes pour la suite du récit.
Mm-hmm.
Puis, la deuxième partie, c'est comme la partie de... C'est la partie de Satie, sa meilleure amie, qui est complètement à l'opposé. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien, ils se complètent, mm-hmm. dans le fond. Puis, Satie, elle, en tout cas, à un moment donné, on lui donne le journal intime de son amie, parce que son amie a comme disparu. Puis, oh. là, elle lit ça, puis... Là, elle se remémore tout ce qu'elle a vécu avec Mina depuis qu'ils se connaissent, depuis qu'ils ont 4-5 ans, leur première rencontre, c'est ça. Puis là, à travers le journal de Mina, elle découvre plein de choses qu'elle s'était jamais aperçue, des choses assez, des fois dramatiques ou tragiques ou conflictuelles qu'elle avait jamais vues. Puis là, elle voit ça d'un autre œil.
Okay.
Et Mina, celle qui est comme brimée un peu dans sa famille, elle a un frère jumeau. Que ça ne peut pas sentir, puis parce qu'il suit tout le temps Mina, il l'espionne, tu sais, il est tout le temps, il la surveille constamment, c'est presque maladif, puis bon, là encore une fois, il y a des choses qui vont se passer que, tu sais, je dirais que le climat s'installe très, très doucement, parce qu'au début, le journal de Mina, c'est comme de la poésie, puis tu sais, je peux juste lire une phrase,
ben oui.
Je ne sais pas, Milan, ça c'est le jumeau de Mina, n'est pas facile. Depuis que je sais marcher, il me suit toujours, pas à pas, partout où je vais, un vrai pot de colle. Elle parle de son frère.
Okay.
Puis à mesure que ça avance. Là, on se rend compte que Mina était peut-être, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'elle est prise dans un engrenage assez... Puis en tout cas, à la fin, c'est ça, un vrai thriller. Là, je pense que quand on lit qu'on est rendu à la fin, il y a une fin, on est jeté à terre.
OK. Ben, je sais que dans ta description, tu écrivais un roman coup de poing.
Oui, c'est un roman coup de poing parce que la fin... tu sais, moi, je l'en ai une fois par année pour voir que puis à chaque fois que j'arrive à la fin, c'est moi qui l'écris en plus. Puis je me dis, mon Dieu, quel shit, là, tu sais.
Oui, 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 OK.
Non, ben, tu sais,
quand on se surprend soi-même, c'est bon signe, ça.
Ce livre-là, l'idée m'est venue en tête, là, ça faisait au moins 10 ans, je voulais faire quelque chose sur un peu le rôle de fille dans des familles, des rôles qui n'est pas toujours facile dans certaines familles. Bon, c'est sûr que c'est pas généralisé. Et j'ai beaucoup aimé la page de couverture de mon livre parce que c'est une toile d'un peintre montréalais qui s'appelle Nicolas Sokolovski. Dominique Sokolovski. C'est une toile où on voit un beau cœur. Mais quand on regarde attentivement, il y a des épingles à linge, il y a une croix rouge.
Ouais.
On voit qu'il y a des choses.
Il est abîmé.
Tu sais, qui vont nous fatiguer. Là. C'est pas un beau cœur 100% parfait, l'amour.
Non, 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 il est abîmé là, de toute évidence. Puis il y a des couleurs aussi. Ben là, de mémoire, là, il y a du brun, il y a du jaune, ça, il y a des trous. Ben, il a l'air d'avoir des trous parce que la couverture est blanche en arrière.
On voit un cœur persil. Il y a beaucoup de... C'est pas un petit roman d'amour à l'eau de rose. Je dirais que c'est absolument très loin de ça. C'est un roman coup de poing. Puis je pense que c'est un roman qui s'adresse à des jeunes et à des moins jeunes qui ont le goût de relever un défi au niveau de l'écriture parce qu'ils vont lire ça puis ça va peut-être leur faire réfléchir sur la situation des femmes peut-être au Québec, puis ailleurs dans le monde, dans d'autres communautés culturelles. Moi, j'ai pris la communauté culturelle indienne parce que il y a quelque chose qui se passe aussi avec la grand-maman. Là, puis en Inde, il y a les femmes indiennes qui sont âgées et souvent veuves ont un rôle spécial aussi. Donc, j'en parle là-dedans. C'est un livre sur le rôle pas toujours facile de femme, mais c'est pas un livre qui est déprimant, là, pas du
non,
tout.
Non, c'est
là.
Ça, mais c'est parce que je t'écoute, puis tu vois, je connaissais pas ça, là, le rôle des femmes plus âgées en Inde et tout ça. Fait qu'il y a du beau à travers ça, il y a des rôles féminins qui sont bien, tu sais, qui sont beaux aussi, là, tu sais. Puis j'ai l'impression aussi, avec le choix de tes deux personnages, tu montres aussi que, tu sais, il y a une famille plus traditionnelle, disons, puis il y en a une qui s'est adaptée plus facilement à la société québécoise. Fait que tu ne voulais pas généraliser non plus.
Non, c'est pas. Moi, je ne prends pas parti ni pour une ni pour l'autre. Je fais comme raconter l'histoire à travers les yeux de chaque adolescente qui a 15 ans qui découvre que c'est quoi, mettons, l'amour, mais c'est quoi aussi que ma meilleure amie a vécu, que j'ai jamais vu de ma vie, puis ça fait 10 ans que je suis aimée avec elle. Moi, j'aime. La fois, c'était ma meilleure amie, mais. Elle m'a jamais tout compté dans sa vie, là, tu sais. Elle m'a caché beaucoup d'affaires, là, puis.
Ouais, ouais.
Tu sais, ça touche beaucoup de facteurs aussi, si on peut dire.
Puis là, tu disais que ça t'a pris 10 ans, mais
l'élément déclencheur. Ça m'a pris 10 ans, pas 10 ans à l'écrire, mais 10 ans.
De réfléchir.
Faire la recherche, parce que là, je me disais, bon, comment je vais aborder mon affaire, puis là, j'avais commencé, mais ça débouchait jamais. Puis à un moment donné, avant de me coucher, moi, j'ai souvent mes idées. Avant de me coucher. Mais le problème, c'est que moi, quand je me couche, ça me prend une minute m'endormir. Tu sais.
Hey, on est pareil.
Fait que, là, avant de m'endormir, ça a fait deux narrateurs. Fait que là, j'ai juste eu le temps d'écrire ça sur un bout de papier, mais tu sais, parce que je m'en souviens. Si je ne l'écris pas tout de suite, je l'oublie. Fait que là, le matin, en me levant, deux narrateurs. J'ai dit, c'est ça. Fait que là, ça a comme tout déclenché. Là, ça a été plus facile, l'écriture. C'est mon idée de base était déjà là, mais là, ça avançait plus vite. Là.
Puis est-ce que tu avais ta fin? Parce que là, tu me dis que tu as une fin qui est punchée.
Oui.
Est-ce que tu avais ta fin avant de l'écrire ou bien.
J'avais ma fin, mais l'éditeur a fait changer ma fin.
Ah ouais, OK.
Puis je dirais même plus que l'éditeur dirait qu'il a coupé 20% minimum de mon roman, de mon manuscrit.
20%.
20%.
Wow, okay.
Je disais que l'ego en prend pour son rhume.
Oui.
parce que, mais...
Mais ça te rend satisfaite, tu sais?
Oui, ça m'a satisfaite. Puis, okay. Bon, moi, j'ai un bon français, mais quand je voyais que ça coupait, je me disais, c'est vrai. Tu sais, là, faut voir ça ouais. Neutre, là, puis ah oui, c'est bon, c'est répétitif. Tu sais, à un moment donné, on est tellement dedans qu'on voit pas le travail de l'éditeur, puis de la réviseur, puis la correcteur, correctrice d'épreuves qui sont essentielles.
Absolument.
Puis
tu sais, on veut tellement que les gens comprennent. Tu sais, nous autres, on est dans notre tête, puis on veut tellement être clair que moi aussi, je me rends compte là, que des fois, je répète. Puis là, tu fais, ben non, ça, c'est. Je pense qu'ils ont compris, là.
C'est ça, mais ça prend une personne extérieure, professionnelle, pour derrière nous, pour corriger justement les répétitions. Puis des fois, il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, qu'on ne voit même pas, parce qu'on même si on le fait lire à d'autres, ils ne le voient pas, les autres non plus.
Non, puis on ne peut plus le voir parce qu'on est trop, on a trop le nez dedans. Là, ça prend un recul. Puis une personne qui a un regard neuf aussi sur l'histoire, comme ça, je disais, nous autres, on est dans notre tête, l'histoire. Il faut s'assurer que les gens vont la comprendre, mais en même temps, il ne faut pas les prendre pour des idiots non plus, puis trop leur dire « le mur, il est bleu ». Avez-vous vu le beau mur bleu? Le mur, il est bleu. À un moment donné, j'avais un éditeur qui m'avait dit ça. Je l'ai vu, le mur bleu. Là, c'est correct. OK. Le travail éditorial, c'est vraiment fascinant. Hein. Tout ce travail-là là, qui est fait sur nos manuscrits, là, le 20%, là, j'avoue que c'est...
Oui, puis disons que... Oh, fait que ça fait un choc, mais fallait le faire.
C'est ça, c'était correct.
Ouais.
Puis là, tu me dis que tu lis tes livres à chaque année. C'est le fun, ça.
Mais je les relis une fois par année. Là. Je ne pense pas, mais...
Non, je sais.
Je lis le dernier, celui-là. Je lis pas tous les livres, franchement, non.
Pas tous, non, OK.
Non, mais celui-là, je pense que c'est le meilleur que j'ai fait à ce jour-là. C'est celui qui m'a demandé le plus au niveau des tripes, du cœur, puis de... Tu sais, j'ai comme... Je suis allée dans un monde où je n'étais jamais allée. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Puis je pense que j'avais besoin de tout ça, là.
Oui. Puis là, on se parlait avant l'enregistrement, on se parlait du fait qu'il est sorti tout juste avant la pandémie, tu sais.
Oui.
Qui a pas... moi, j'ai un livre aussi là, de ce type-là, là, qui n'a pas connu la vie qu'il aurait pu avoir en librairie, puis c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, parce qu'on veut lui donner un second souffle, tu sais. Mais peux-tu nous parler exactement de ce qui s'est... tu sais, il est sorti quelle date, en fait?
Bien, il est sorti à peu près la mi-février, puis le lancement de livre a eu lieu, je pense, le 5 mars ou le 7 mars. Donc, c'est à peu près, même pas une semaine avant que c'est le 14 mars que tout a été fermé. C'est le 8 mars. Tout a été fermé une semaine plus tard. Puis moi, je me préparais à aller dans les salons du livre. Tu sais, il y avait plein d'affaires qui étaient... Là, tomber du jour au lendemain à rien, là, ça... Puis comme je ne publie pas tous les ans, pour moi, ça a été un gros choc. Ça a été très difficile au début, là. Puis là, ça m'a coupé toute envie d'écrire, tout ça. Puis en plus, dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie et le livre qui est comme tombé en deux craques, si on peut dire, la directrice littéraire de la maison d'édition est partie. Okay. Et la personne qui s'occupait des communications est aussi partie. Fait que là, moi, j'avais plus de nouvelles de qui que ce soit. Puis là, à un moment donné, bon, ils ont remplacé ça par quelqu'un d'autre. Mais c'était plus la même dynamique parce que...
Elle connaissait moins le livre, j'imagine.
C'est ça qu'elle...
C'est ça.
Mais oui. ça arrive. On ne sait jamais qu'est-ce que... Non. Quand on sort un livre, qu'est-ce qui va arriver? Là? Bon, là, des fois, on sort un livre, quelqu'un sort un livre qui à peu près qui aborde le même sujet en même temps d'une autre maison. Tu sais, c'est toujours un peu le hasard
J'ai parlé un peu de ça avec Marie-Hélène Jarry parce que son roman est sorti en même temps à peu près qu'une série dont la prémisse est la même, tu sais. Un carnet dans lequel deux jeunes s'écrivent, puis elle dit ça ressemble à une série Netflix, puis elle dit ça n'a rien à voir. Des fois, il y a des espèces de hasards comme ça. Mais c'est vrai, il y a des hasards comme ça qui font qu'un livre va fonctionner ou pas. Puis ce serait le même livre qui sort, mettons, à un mois d'intervalle, puis la réception ne sera pas la même du tout. T'sais. Mais ça,
mais en plus,
aucun contrôle là-dessus.
Le titre, c'est Un cœur en cage, mais moi, j'avais trouvé un autre titre.
OK.
Puis juste avant qu'on le perde pour l'impression, là, il y a un livre européen d'une auteure suédoise qui fait des polars qui avait mon titre. Fait que là, j'ai été obligée de trouver un autre titre à la dernière minute.
Il partait en impression, là?
Ben là, on était à la dernière
Oh mon
étape,
Dieu.
là, puis l'autre est sorti. Moi, je l'avais vu annoncer, que j'avais dit, hey, il y en a un qui a le même titre que moi. Puis là, ils ont dit, mais ça n'a pas d'allure, faut trouver un autre titre. Bon,
Ben
j'ai
oui.
proposé des choses, finalement, bon, ça a été ça.
OK. Mais c'est un bon titre, par exemple.
Oui, ben c'est
Ouais.
ça rend un cœur en cage, c'est vraiment, ça donne, c'est ça, là.
Ah oui. Puis, je me demandais aussi pourquoi l'Inde? Est-ce que tu as un intérêt particulier pour ce pays-là? Est-ce que tu as visité l'Inde?
Non, j'ai jamais visité l'Inde
Non.
et peut-être je pense pas aller tellement dans ces pays-là parce que
Non.
justement, je trouve que les femmes sont très brimées là-bas.
OK.
Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, là, mais j'ai fait
Non,
beaucoup
non, non,
de recherches
non. OK.
parce que je voulais une communauté culturelle qui existe ici et qu'on n'entend peut-être pas beaucoup parler parce que c'est des gens plutôt discrets ou qui se mêlent très
C'est
peu
vrai.
peut-être à nous, à notre propre communauté francophone québécoise là.
OK.
C'est été sur l'Inde parce que l'Inde, je pouvais aborder plusieurs. J'ai parlé de la grand-mère, j'ai parlé du rôle des femmes là-bas. Bon, il y a d'autres affaires que j'aborde dans le livre qu'on découvre sur l'Inde aussi là. Bon, mais j'ai fait beaucoup de recherches pour ça là, mais je suis pas allée.
Ouais. OK. Non, c'est ça. Je me demandais des fois, c'est on peut avoir un pays qu'on a visité puis qu'on est resté, tu sais, moi j'ai fait un voyage à Cuba, puis je suis revenue. J'ai écrit une nouvelle sur le sujet. Il y a des choses qui m'avaient choquée là-bas, là, tu sais. Fait que je me questionnais si ça pouvait être ça qu'il y avait. Fait que dans le fond, l'idée, c'était de parler du statut de la femme au Québec, mais aussi dans des
La
communautés.
femme et les filles aussi, les
Les
filles.
filles, oui, c'est ça,
Oui.
les jeunes filles.
Les filles, les
Puis est-ce qu'il y a eu un
adolescentes.
événement dans l'actualité qui. Est-ce que je pense à plein d'événements dans l'actualité, là?
Mais il y a eu un
Je
événement
voudrais
il y a
plus.
10 ans qui m'avait troublée, comme tout le monde au Québec, les sœurs Chafia, là, mais
Ouais, c'est ça.
moi, mon livre, c'est pas l'histoire de sœurs Chafia, puis
Non, non, non.
ça finit pas du tout pareil, là, bon. C'est
Non,
ça.
non, c'est ça, là. C'est pas la finale.
Mais c'était la base de dire comment ça se fait que personne n'avait vu ça au Québec. Donc, c'était. C'est un sujet un peu qui n'est pas pareil, mais qui peut rejoindre à certains points. Là, parce que sa meilleure amie n'a pas vu comment elle était traitée. Puis bon,
Ah, ben c'est
bon.
caché.
C'est un sujet pas facile. Là. Moi, je l'avais envoyé à
Ah.
plusieurs maisons d'édition, puis ils m'avaient dit, ah, oh, c'est bon, mais c'est un sujet pas facile. Un sujet
C'est
difficile
délicat.
même. Bon, puis c'est ça, j'ai dit, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que moi, j'ai fait des romans historiques, j'ai fait des romans, j'ai fait des nouvelles. Puis moi, j'aime ça. À un moment donné, je pense qu'il faut essayer comme se jeter pour sortir de notre zone, faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est difficile parce que c'est toujours plus
Oui.
facile de faire, OK, ben, je vais faire ça. Moi, je ne serais pas capable de faire des séries de 20 fois le même livre, je sais pas, le ABC numéro 1, 2, 3. Je ne serais pas capable. Il me manquerait quelque chose. Autant j'aime ça voir des films qui se renouvellent, des chansons qui. Tu sais, je trouve qu'en littérature, il y a moyen de faire des choses pour sortir sa créativité, son originalité. Il y a des choses que je pourrais sans doute jamais faire, comme moi, je suis pas bonne, je ne suis pas visuelle. J'essaie de faire des albums, mais je pense que je serai jamais capable. Je ne vois pas. Je décris, puis en album, il faut peut-être 200-300 mots, 500 mots. Moi, ça, je ne l'ai pas. Mais d'autres affaires, oui. Puis, en tout cas,
On a
il faut
chacun nos
essayer,
forces,
puis. On
c'est
a nos
ça,
forces,
nos
nos faiblesses, puis nos
faiblesses.
intérêts aussi. Puis,
Mais c'est le fun de vouloir se renouveler comme ça, puis d'essayer des nouvelles choses. Tu sais, moi, j'avais tendance à rester dans mon petit confort. Tu sais, j'écrivais pour les ados, puis c'était ça. Tu sais. Puis là, ben, mon nouvel éditeur m'a. Justement, il m'en a fait faire des albums, puis ouf! Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Un jour, je vais en parler, là. J'ai bien envie de parler de ce sujet-là. Mais c'est ça. Moins il y a de mots, plus c'est difficile, dans mon cas, à moi, en tout cas.
je pense que je
Moi, je
ferais
suis
la même
capable de
chose.
m'étendre. Moi, tu sais, les séries, comme tu disais, là, tu sais, ça, je suis
Je pense pas que tu ferais 20
bien
séries.
à
Tu
l'aise
ferais la
avec.
même série, là, mais.
Ben, j'ai deux séries, là, tu sais, puis il y en a une que je sais que ça va être 10 tombes, puis l'autre que je m'enligne pour du 6-7 tombes, là, fait
Ah,
que,
ouais, OK.
ouais. Et ça, je suis
Non, mais
très bien là-dedans.
pas 20, parce qu'à un moment donné,
Ben non. Ben
c'est.
non, mais tu sais, si on tombe dans les hors-séries, si on commence à faire des
OK.
hors-séries, là, je pourrais, tu
Ah,
sais.
oui, OK.
Mais c'est pas dans mes plans nécessairement de me rendre à 20, là. C'est beaucoup 20, mais tu sais, mais c'est pas
Non, mais c'est sûr
impossible
que
non
chacun
plus.
fait ce qu'il veut, là. Tu sais,
Exact.
on écrit pour soi. on écrit pour se dépasser, puis il y en a qui s'envoient là-dedans, puis ça les rassure de répéter les. Pas répéter, mais. Parce que c'est sûr, quand tu fais une série, tu as déjà tes personnages de base qui sont là.
Ça va bien,
tu les
connais.
Quand tu fais quelque chose de nouveau, faut que tu parles des nouveaux personnages.
Ah, oui.
Ça, c'est long des fois, parce que moi, c'est très long. Parce que moi, je leur donne des noms. Tu sais, avant d'écrire, là, j'ai leur nom, leur âge, qu'est-ce qu'ils ont l'air, leur défaut, qualité. Tu sais, puis c'est quasiment du monde que je vois chez nous, là. Bon.
Mais il faut qu'il soit assez solide pour que j'aie l'impression que c'est mon ami. Tu sais.
C'est ça.
Parce qu'après, sinon, je ne peux pas écrire rien. C'est pas assez, c'est pas assez tangible. Tu sais.
C'est comme leur personnalité, leur corpus.
Ouais. J'avais une dernière question pour terminer. On a parlé, tu sais, que ce livre-là est sorti avant la pandémie, que ça t'avait enlevé l'envie d'écrire. Tu sais. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est revenu, le goût d'écrire?
Oui, c'est revenu, mais je dirais que je suis plus sensible, plus hypersensible qu'avant. Là. Des fois, j'écoute des chansons, j'ai les larmes à l'œil, la larme à l'œil facile, mais c'est pas une dépression, c'est pas un burn-out. C'est comme on dirait, je suis plus à l'écoute des moindres émotions. Et je suis en train d'écrire quelque chose d'amusant, parce que ça, c'est assez dramatique, quelque chose d'amusant, léger, qui me fait du bien, si c'est publié, ça va faire du bien aux jeunes. C'est les 9-12 ans, c'est pas du tout le même public. Ça, c'est les 13 ans et plus.
Ouais.
Puis, ah oui, c'est revenu, mais ça a pris du temps. Mais je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes.
Mais en fait, j'ai fait un article dans l'Urelu sur le sujet, c'est pour ça que ça m'interpellait. Là, que je pense que je t'avais interviewé pour cet article-là en plus. Là, ça
vient là, quand je suis abonnée.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment deux. Puis moi, je suis l'opposé, encore une fois. Là, je suis carrément l'opposé. Moi, au contraire, je n'ai jamais autant écrit que pendant la pandémie parce que ça m'empêchait de penser à ce qui se passait dans la vraie vie. Ouais, c'était une fuite, une grosse fuite. Là, tout à fait consciente. je le savais que c'était ça, là, mais pour ne pas avoir à réfléchir au fait que... ça, moi, c'est ça. Moi aussi, l'hypersensibilité s'est encore développée. Je vais dans des boutiques, j'ai de la misère à sortir parce que juste voir des gens avec un masque dans le visage, je viens émue puis je me dis, je ne peux pas croire qu'on est en train de vivre ça. T'sais. On dirait que ça marche pas dans ma tête. Puis tu sais, tous les décès, puis les hôpitaux, puis tu sais, je me tiens loin des nouvelles. Fait écrire, c'est un monde parallèle dans lequel il n'y a pas...
Tu peux t'évader.
Je m'évade, c'est ça, mais tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Quand je vis des drames dans ma vie personnelle, l'écriture me sert à ça aussi, tu sais, à aller ailleurs. C'est comme un lieu sécuritaire, tu sais.
C'est comme notre bouée de secours, de sauvetage.
Absolument, mais j'ai vu aussi l'opposé où il y a des gens pas capables d'écrire, tu sais, qui trouvaient ça futile d'écrire, qui se remettaient en question, que là, tu sais, ils voyaient des drames humains puis ils se disaient, je peux pas écrire, tu sais... c'est comme ça, ils remettent en question toute la démarche là, créative, là, la pertinence de ça, alors qu'il se passe tellement des choses plus importantes dans le monde. T'sais. Fait qu'il y a vraiment ces deux facettes-là que je trouve vraiment.
J'ai l'impression que la plupart des gens, là, on commence à être habitués, veut pas à la pandémie, mais j'ai l'impression que le côté créatif est comme revenu chez beaucoup de gens, autant en littérature qu'en théâtre et autres. Là, parce
ah ouais, puis on a hâte, on a besoin. Là.
Oui, c'est ça.
On a besoin de ça là, plus que jamais. Ouais. Mais merci beaucoup, Manon. Ça a été très agréable.
C'est intéressant de parler avec toi.
Oui, merci. Ça sera à refaire. À la prochaine.
À la prochaine. Bye. Bye.
Vous pouvez vous procurer le livre Un cœur en cage de Manon Plouffe sur le site leslibraires.ca. Rencontrons maintenant Élisabeth Barry-Lessard et Martine Arpin, toutes deux récipiendaires du prix Cécile Gagnon en 2021. Martine Arpin a toujours un carnet qui traîne quelque part pour y noter les mots, les bouts de phrases, les idées et les images qui apparaissent soudainement à toute heure du jour ou de la nuit dans son esprit. Parfois, ces fragments deviennent des articles professionnels, des textes modèles pour les ateliers d'écriture en classe avec ses élèves du premier cycle du primaire, des poèmes ou des histoires. Étudier l'enseignement de l'écriture auprès d'experts dans le domaine lui a permis de grandir comme enseignante et de mieux comprendre le travail des auteurs. Elle est récipiendaire du prix Cécile Gagnon pour son album « Thomas ». Élisabeth Barry-Lessard est détentrice d'un baccalauréat multidisciplinaire conjuguant le théâtre, création littéraire et service social. Elle est l'autrice de la série de romans pour adolescents « Ma vie 2 », publiée aux éditions Les Malins depuis 2019. Le premier tome, Ma vie de gâteau sec, a été lauréat du prix de création littéraire au Salon international du livre de Québec en 2020 et du prix Cécile Gagnon en 2021. Élisabeth écrit aussi des pièces de théâtre, de comédie musicale pour le jeune public. L'un de ses textes de chansons, mis en musique par Sarah-Anne Arsenault, fait partie de la 4e saison de Passe-partout à Télé-Québec.
Alors, bonjour Martine Arpin et Élisabeth Barry-Lessard. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. On s'est déjà rencontrés, là, mais je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui. Je sens que ça va être super intéressant. On a 20 minutes, je pense qu'on va déborder, mais c'est pas grave. On prendra un petit peu plus de temps si ça le prend. Alors, on va débuter avec Martine qui va nous parler de son album Thomas qui a été récipiendaire du prix Cécile Gagnon. Alors, quelle est cette belle histoire?
Ben, Thomas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu sa maman, puis qui cherche comment réparer son cœur brisé. Alors, il demande à plein de gens s'ils savent, s'ils peuvent l'aider, des gens qui ont été proches de sa maman, des gens dont sa maman lui avait parlé, mais il se rend compte finalement avec son papa que c'est avec ses morceaux de souvenirs qu'il va réussir à remplir le trou qui s'était fait dans son cœur. Donc, ça finit peut-être avec une touche plus d'espoir, même si c'est un sujet difficile. Mais c'est ça l'histoire de Thomas.
Effectivement, je fais juste en t'écouter puis j'ai le bâton. Mon Dieu, le cœur brisé.
Oui, les adultes me disent beaucoup ça sur le texte que moi, finalement, je suis immunisée maintenant parce que je l'ai trop lu. Mais adultes me disent ça. Mais les enfants, c'est drôle, les enfants perçoivent vraiment... Avec plus de sérénité, je pense que les adultes, moi, je ne pensais pas pouvoir le lire. Je me disais, pourquoi j'écris un livre que je ne lirai pas à mes élèves, par exemple? Mm-hmm. Mais finalement, non, je me rends compte que pour les enfants, ça va chercher pas juste dans le deuil, ça va chercher dans les peines qu'ils ont au quotidien. Le cœur brisé, ce n'est pas nécessairement un deuil. Donc, pour eux, ça évoque la perte d'un animal, la perte d'un... Mais moi, je trouvais ça qu'il y en avait beaucoup. Déjà dans la littérature. Donc, mais voilà, chez les enfants, ça vient chercher autre chose, mais ce que tu dis, je l'entends souvent.
Ouais, mais c'est vrai que c'est vaste, là, le sujet du deuil, tu sais. Ça peut être une chicane avec un ami aussi. Ça va vraiment jusque-là. Puis, tu sais, je me questionnais, tu sais, est-ce que tu as eu aussi des retours d'enfants qui ont vécu un deuil, tu sais, d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur?
J'ai eu des retours d'adultes, ce que moi, je ne m'attendais pas du tout. Des adultes qui ont perdu leur maman dernièrement. Mmh. Là, j'ai eu des retours qui m'ont dit, ben, même si c'est un album, c'est sûr que c'est souvent des gens près de la littérature jeunesse qui ont eu accès et qui me disent, ah, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a touché, même si je suis un adulte. Mais des enfants, j'ai eu des gens qui ont offert à des enfants, mais je n'ai pas eu le pouls des enfants, mais des gens qui étaient contents de pouvoir offrir. Mais tu sais, moi, dans le fond, là, c'était vraiment parce que je ne savais pas comment aborder ça avec des enfants. Quand j'ai voulu écrire Thomas, c'est parce que quelqu'un autour de moi, un élève, devait vivre ça dans les semaines ou dans les mois qui s'approchaient. Mm-hmm. Puis moi, je continuais à me dire dans ma tête comment je vais aborder ça et avec cet enfant-là et avec les autres enfants autour qui ont un ami qui va perdre leur maman. Puis comment on peut comprendre à cet âge-là. Puis pour moi, la littérature jeunesse, c'est la meilleure façon d'aborder ces sujets-là, d'aborder toutes sortes de sujets, les différences, l'acceptation, apprendre à connaître l'autre, c'est par la littérature jeunesse, apprendre à connaître des réalités qui sont loin de nous, à reconnaître des réalités qui sont proches de nous, à se reconnaître. On parle beaucoup en littérature ces temps-ci de miroir, de littérature miroir, de littérature fenêtre, de grandes portes ouvertes. Puis pour moi, c'était un peu ça. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'aborder n'importe quoi avec les enfants, c'est par la littérature jeunesse.
Ah oui, c'est vrai. Puis le sujet du deuil, effectivement, comme dans une ancienne vie, j'étais libraire, puis c'était demandé énormément. Puis même en ce moment, tu sais, j'ai des amis c'est arrivé dans mon entourage. Puis, tu sais, là, je suis heureuse parce que j'en ai à proposer, tu sais. Mm-hmm. Justement, celui-là, là. Très, très, très intéressant. Merci, Martine. On va continuer avec l'anxiété, avec Élisabeth, tant qu'à parler de sujets intéressants, avec Ma vie de gâteau sec, qui a gagné le roman. C'est le prix Cécile Gagnon. Alors, si tu voulais nous parler un peu de l'histoire.
Ben oui, allô, allô tout le monde.
Ben oui, bonjour Elisabeth.
Bonjour. Depuis tantôt, j'écoute activement toute cette belle conversation. Oui, c'est vraiment intéressant. Ma vie de gâteau sec, en fait, c'est une série, ça, donc c'est le tome 1. Ça raconte l'histoire de Louane, qui est une jeune fille de 15 ans, qui est pas une fille qui font. Ben, c'est pas, mettons, la meilleure à l'école, elle est pas nulle, mais tu sais, c'est comme dans la moyenne, c'est pas son activité préférée, mettons, là, aller à l'école tous les jours. Mais elle, ce qui la passionne beaucoup, 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 ben, c'est la danse. Elle a l'impression qu'elle est bonne dans une seule chose et c'est la danse. Mais un jour, pendant un spectacle super important devant des centaines de personnes, ben, elle fige, elle a le mal au cœur, elle a le chaud, elle sait pas ce qui se passe, elle oublie ses mouvements. Puis, sachant pas trop quoi faire avec ce mal-être-là, ben, elle sort de scène. Donc, à partir de là, elle a quand même un diagnostic très tôt là, dans le processus de troubles anxieux. Donc, comme on disait tantôt, comme tu disais, Amélie, que le thème principal de la série, c'est vraiment l'anxiété. En fait, elle était en sport-études danse à son école, donc faisait de la danse chaque après-midi de sa vie. Donc, la direction, sachant pas trop quoi faire avec elle, l'envoie à la bibliothèque au lieu d'aller à ses cours de danse, en fait, en attendant, parce qu'elle a décidé vraiment complètement d'arrêter. Au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, ben, elle fuit ce problème-là. Donc, elle se ramasse à la bibliothèque à trouver le temps très long et plate. Mais c'est là que va naître une amitié avec le personnage de Théo. Donc, Théo, qui est un garçon qui fonctionne pas très bien dans le système scolaire. Il va se reconnaître beaucoup en Louane, puis ils vont devenir amis. Voilà, c'est la prémisse de la série, ça.
Puis là, il y a un hors-série sur Théo aussi que j'ai vu.
Oui, c'est ça. Oui, il y a quatre tomes. Vas-y.
Celui-là est sur les troubles scolaires, le TDAH, je crois.
Oui, exactement, exactement. Donc, c'est vraiment dans la même chronologie que Ma vie de gâteau sec. Donc, on est le même moment, mais on est dans le point de vue de Théo. Donc, lui, dans ses difficultés scolaires, effectivement, puis ses découvertes sur lui-même, puis ça sur sa santé mentale, bien sûr.
Wow, super intéressant. Puis, j'ai une question qui me vient, puis je peux vous la poser à toutes les deux. Est-ce que si vous avez eu envie d'écrire sur ces sujets-là, c'était en lien avec des choses que vous avez vécues ou pas du tout? Vous n'êtes pas obligé d'élaborer trop dans l'intimité,
oui,
mais je peux peut-être commencer avec Elisabeth.
j'ai un trouble anxieux depuis l'adolescence. Mais moi, c'était quelque chose, tu sais, même malgré mon jeune âge. Quand j'étais ado, on parlait pas du tout d'anxiété, on parlait pas de santé mentale. Puis j'avais pas ça dans ma culture populaire, j'avais pas ça dans mes livres que je lisais, dans les séries de télé que j'écoutais. Donc c'était très très tabou. Donc j'ai eu peu de soutien en fait, puis peu de. Tu sais, moi je sais que tu sais, j'étais allée voir des médecins, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, j'allais pas bien, mais personne m'a jamais parlé du fait que ça pouvait être de l'anxiété.
C'est pas
connu, c'est fou, tu sais. Aujourd'hui, on a l'impression même qu'on diagnostique peut-être trop, mais avant, c'était l'inverse, là, tu sais, on n'en parlait pas du tout. Donc oui, je me suis inspirée, moi, de ma vie avec le trouble anxieux, de mon adolescence avec ça. Mais aussi, mon objectif, c'était vraiment de créer un livre aussi qui peut accrocher ceux qui ne connaissent pas ça du tout, tu sais, qui ne vivent pas d'anxiété ou qui ont personne, mettons, autour d'eux, ou s'ils ont quelqu'un autour d'eux, ben c'est peut-être une première porte d'entrée pour essayer d'un peu plus comprendre c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la santé mentale. Fait que c'était de créer un livre nuancé, avec beaucoup d'espoir, de légèreté, d'humour aussi, malgré le thème très sérieux du départ, pour ceux qui en vivent, donc pour ceux qui en vivent se sentent moins seuls, mais aussi pour ceux qui n'en vivent pas, ben je me disais,
comprendre.
Exactement, de développer leur empathie. On parlait de ça tantôt.
Peut-être même se reconnaître, parce que là, je suis en train de me dire, t'es quelqu'un qui en vit, mais qui ne sait pas si c'est ça exactement, peut reconnaître. Oh, ça me ressemble finalement.
Oui.
Peut-être que ce serait le temps que je consulte ou que j'en parle autour de moi.
Exact. Ah, oui,
mon mal-être vient de. Ça peut vraiment aider.
Oui, bien d'accord.
Oui, Martine.
Juste pour ajouter, c'est que je trouve aussi, Elisabeth, que tu le fais, tu sais, c'est pas un ton diagnostique, c'est pas un ton moralisateur, puis même si t'es jeune, je veux dire, t'es pas adolescente, puis même si ça fait pas longtemps, c'est quand même pas facile d'écrire en se mettant, je trouve, dans, tu sais, dans la vraie peau, puis avec des vrais mots d'adolescents, puis tout ça. Ouais, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est ça qui va les toucher ou qui va les. Ceux qui vont se sentir interpellés d'une façon ou d'une autre, c'est parce que c'est fait avec une espèce de finesse, je trouve. Tu sais, que c'est pas facile s'adresser aux adolescents sur des sujets sérieux sans que ça soit trop sérieux. Là. Mmh. C'est comme une belle porte, je trouve, que tu amènes. Tu sais, dans...
Merci, ouais. C'est gentil.
Mais, ouais, si je continue, ben, puis moi, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à aborder, que je savais pas comment faire autrement que
par avec la littérature. Avec tes élèves,
ouais. Ouais. Ben, c'est vrai. Finalement, c'est pas arrivé, mais j'ai pas eu à m'en servir, finalement. La belle fin de cette histoire, c'est que elle est toujours vivante 20 ans plus tard, cette maman-là.
Oh, wow. C'est bien
j'ai
génial.
J'ai fait un long chemin, Thomas, mais j'ai pas eu à m'en servir pour cet événement précis, mais moi, ça m'a apporté beaucoup juste de l'écrire, là, tu sais. Oui,
ouais. Parce que ben, on pourrait en parler longtemps de ça aussi, mais l'écriture thérapeutique, tu sais, moi, je pratique beaucoup aussi. Là, tu sais, je vous posais la question, mais dans mon cas aussi, c'est exactement comme ça que je travaille. Là. J'aborde des sujets très personnels. Moi, c'est l'estime personnelle en particulier, parce que j'avais une faible, écoute, dans le tapis, là, faible estime personnelle. Mais je m'en allais avec ça. J'ai perdu mon idée.
L'écriture thérapeutique,
exactement, merci. C'est ça, c'est une forme d'écriture thérapeutique. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Ben,
nécessairement. Je vois la face de Martine qui n'a pas l'air sûre, mais Elisabeth, peut-être?
Ben, en fait, c'est pas tant... Je pense que il faut quand même, si je vis toujours avec de l'anxiété, et je pense que je vais en vivre toute ma vie, j'ai pas l'impression que je... Ben, je sais pas comment... parce que je pense... C'est que l'autre jour, j'entendais dans une entrevue Simon Boulris dire que... tu sais, c'est fait demander, est-ce que c'est difficile pour toi, puisque tu as vécu une adolescence difficile, est-ce que c'est difficile de toujours y retourner? Puis il dit non, parce qu'on dirait que je la répare un petit peu à chaque fois. C'est ça. Ça m'a vraiment, vraiment parlé. Puis j'avais pas vu ça comme ça, puis j'étais là, ah, c'est pas, pourquoi, je me dis, pourquoi je suis aussi proche de mon adolescence, pourquoi je retourne toujours à ça, puis je sens pas que c'est catharsis, je sens pas que ça me rend pas triste ou ça me rend pas anxieuse de décrire l'anxiété, mais je pense qu'effectivement, j'essaie un petit peu de réparer plein de choses que j'ai vécues.
Ou d'expliquer, dans mon cas, moi aussi, c'est de donner un sens à ce que j'ai vécu, tu sais, les événements difficiles de ma vie ont un sens parce que je les mets dans mes livres, qui aide des gens, tu sais.
Oui.
Ouais. Ouais, c'est vraiment bon. Ce que tu viens de dire là, moi aussi, ça m'a...
Mais c'est pas moi, c'est Simon.
Je l'avais pas
Boulris,
entendu.
Là.
Oui, oui, mais tu me l'as rapporté quand même. Puis c'est très intéressant de ce point de vue. J'avais pas vu ça comme ça du tout. Mais c'est vrai, c'est comme si on répare des blessures ou qu'on répare des histoires de notre passé. Mm.
Martine, qu'est-ce que t'en penses?
Ben oui, mais je sais, moi non plus, je l'ai jamais réfléchi comme écriture thérapeutique parce qu'en fait, je l'ai pas vécu. Puis j'ai pas vécu vraiment de deuil autour de moi dans ma vie. J'ai mes deux parents encore. La vie est bonne pour moi là pour ça. Je pense, je suis pas rendue dans tout ça, donc je sais pas si c'est une écriture thérapeutique. Mais moi, je sais que. Tu sais, j'écris pour toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai un carnet, Elisabeth, je suis certaine aussi, puis toi aussi, oui. Amélie. Tu sais, c'est comme si j'écris, ça sort de ma tête, ça sort de mon cœur, que ce soit n'importe quoi. C'est comme si, c'est juste qu'il y a quelque chose qui sort. Puis à un moment donné, ça ne t'appartient plus, mais je veux dire, tant que c'est dans le carnet, il t'appartient, puis ça se peut que ça ne fasse jamais rien. Moi, Thomas, je n'ai jamais écrit, tu sais, c'était pas mon métier, tu sais, le prix Cécile Gagnon, là, je l'avais dit quand j'ai gagné, c'est comme si ça met un saut de dire le syndrome de l'imposteur, ça suffit, parce que moi, c'est pas ça mon premier travail, c'est pas un vœu que j'avais ou un désir dans la vie nécessairement, mais je me rends compte, j'ai toujours aimé ça, mais j'écrivais pour moi. Peut-être que dans cette optique-là, tu vois, quand on y réfléchit, ça peut être thérapeutique, mais j'écrivais pour moi,
avec un besoin que tu avais senti dans ton environnement.
Peut-être, je ne sais pas, moi, ça m'aide beaucoup à réfléchir, écrire. Mmh. J'écris plein d'affaires qui ne sont pas des livres, qui ne vont pas sortir jamais, mais puis je me rends compte finalement, à reculant, que oh oui, j'ai toujours écrit beaucoup. Alors,
dans ce sens-là, oui, peut-être que c'est thérapeutique, même si ce n'est pas le sujet exactement de ce livre-là qui est thérapeutique. Ça va chercher. Moi, c'est ma façon de m'exprimer. Il y en a que c'est ouais. par les arts, une autre forme d'art. Oui.
Ah, ben merci Martine, tu me rends mon travail facile. Je voulais justement qu'on parle du prix. Ça, c'est le gagnant, c'est un peu l'objectif. Ah. Je voulais savoir qu'est-ce que ça avait apporté dans vos vies. Fait que là, Martine, tu en as déjà mentionné un certain bout, là, comme diminuer le syndrome de l'imposteur.
Oui, parce que c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. Tu sais, moi, je me disais, je ne connais personne. Je ne connaissais même pas ça, la EQJ, avant que vous m'écriviez. Fait que... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de l'aimer, qui n'est pas obligé de me trouver quelque chose de positif à mon livre, puis d'entendre ces choses-là.
Contrairement à nos parents.
Oui, tu sais, c'est pas ma mère, c'est pas mes amis, c'est pas même mes élèves, tu sais. Je pense que c'était plus comme ça, moi, que je l'ai perçu, parce que aussi, c'était le premier, puis c'est ça, c'était pas ça mon premier métier. Là. C'est pas ça mon premier métier d'être auteur, même s'il y en a d'autres là, qui sont là ou qui s'en viennent, mais ça a débloqué quelque chose, mais c'est ça. Moi, je pense que ça m'a fait. Toi, Elisabeth?
Ben, moi, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est que, tu sais, on dirait, tu sais, moi aussi, je suis ex-libraire jeunesse. Là.
Moi aussi,
j'étais 6 ans quand même en librairie à lire tellement de choses, puis je trouve qu'on voit beaucoup de livres jeunesse qu'ils vont soit vivre un succès, entre guillemets, envers les jeunes, ou un succès qui vient des pères. On dirait que tu peux pas avoir les deux. Soit que tu as beaucoup de jeunes, tu sais, un succès très populaire, donc les jeunes te lisent beaucoup, mais tu as très peu de reconnaissance de l'autre bord, ou en tout cas, je trouve que j'ai été témoin de ça souvent, puis on m'a souvent parlé de ça. Puis on dirait que moi, quand j'ai pris ma décision par rapport à je veux écrire, puis je vais dans quelle maison d'édition et tout, j'ai visé les jeunes. T'sais, je me suis dit, c'est sûr que ça doit faire du bien à l'ego là, de gagner un prix, là, mais qu'est-ce que je veux le plus au monde, c'est que des livres se rendent entre les mains des jeunes, t'sais, puis que ça soit accessible. Mm-hmm. Fait que moi, avec Les Malins, c'est ça leur mission, puis c'est ça que je voulais. Fait que d'avoir une reconnaissance comme ça des pères, d'avoir une reconnaissance du milieu, ça m'a tellement surprise. Mais tu sais, c'est vraiment profondément, je m'attendais tellement pas à ça. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Là. Tu sais, c'est une douceur, là. C'est quelque chose de comme réconfortant de faire « OK, les jeunes trouvent ça bon, mais en plus, j'ai une tape dans le dos de mon propre milieu qui font « Ah, c'est bien ce que tu fais, continue. » Tu dis « Wow, là, c'est genre l'apogée du bonheur. » Tu sais, non, tu sais, j'étais très fière de moi, là. J'étais très touchée, très, très touchée, oui.
Oui. Ouais, vos réactions à toutes les deux étaient magnifiques. J'étais tellement heureuse d'être là.
J'essayais de ne pas trop pleurer. Tu sais, j'avais mon masque, puis j'avais vraiment les yeux pleins d'eau, puis j'étais là « Je peux pas pleurer dans mon masque, là. » Je veux pas. Puis c'est là, ça, j'ai de l'air tellement vulnérable de pleurer devant. Tu sais, ça n'a pas rapport. Il y avait plein d'enfants. Tu sais, ça n'a pas rapport de pleurer devant les enfants. Puis là, j'essayais de pas pleurer. Mais j'étais très touchée. Là, tu sais, ça m'a vraiment fait un bien fou. Mais tu sais, on dirait que des fois, on a l'impression qu'il faut se cacher de ça. Parce que. Mais non, tu sais, on travaille fort, puis c'est rare qu'on est en nomination, puis c'est rare qu'on reçoit des prix. Fait qu'il faut les accueillir, puis être fier de nous, puis remercier les gens autour de nous, parce que ça arrivera pas 1000 fois, même si on est des super bonnes autrices, ça arrivera pas 1000 fois. Là.
Non, puis t'as raison, c'est vrai qu'il faut pas faut arrêter d'être gêné, il faut juste comme être fier, puis... T'as raison, c'est comme moi, je me disais aussi, là, c'est la seule fois, là, tu es là devant, t'as le micro, tu dis, c'est la seule fois peut-être que je peux dire merci à tout ce monde-là qui va. Tu sais, tu comprends un peu les gens qui disent, je ne vais plus juger à la disque là, quand les gens vont aller recevoir un prix. Pis, non, ouais, mais de dire.
Fameux discours, là.
Mais, tu sais, puis en même temps, c'est correct, tu sais, mais c'est vrai que c'est touchant, c'est. C'est une bonne tape dans le dos, puis il faut comme l'apprécier, puis se dire, ça, c'est ça. Là, je le saisis, c'est à moi, puis je suis contente, là. Puis c'est sûr que ça donne, c'est ça. C'est la tape, c'est un élan. Je trouve que tu avais les bons mots, Elisabeth. C'est comme continue. Puis celui-là, peut-être, puis peut-être quelqu'un va gagner un autre prix, puis il va dire, c'est celui-là, mais je trouve que, tu sais, c'est le gagnant, le prix pour un premier album, pour un premier roman. c'est vraiment... Moi, ça m'avait fait rire parce que tu avais dit le prix de la relève. Puis là, je suis j'étais une vieille relève. Puis je voyais Elisabeth à côté de moi, tu sais. Mais c'est ça, c'est un premier. Fait que ça veut dire que tu as ta place, puis continue, tu sais.
Exactement.
Oui. Mais c'est beau de ce métier-là, c'est que relève, ça n'a pas d'âge.
Oui,
parce qu'on peut être auteur à n'importe quel âge, parce que ça ne prend pas d'études en particulier. On a chacun notre chemin, notre bagage. Fait que c'est très beau d'avoir une relève de peu importe quel âge. Tu sais,
oui.
C'est très significatif.
Oui, absolument. Absolument. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, on peut commencer à écrire à n'importe quel âge. Tu sais, j'ai des auteurs qui commencent à 18 ans. Moi, j'ai commencé, j'ai publié mon premier roman à 31 ans. J'étais de la relève, là, j'en en suis plus. J'étais de la relève, puis je me souviens de ce prix-là, Cécile Gagnon, je le trouvais donc prestigieux et important. Là, fait que... C'est tout le temps qu'on avait déjà. Hey, c'était super de belles rencontres, puis je vous félicite encore une fois là, d'avoir remporté ces honneurs. Puis il y avait beaucoup de livres, hein, fait que c'est pas, il y a beaucoup de nouveaux auteurs. Là, plus les années, il y a beaucoup de nouveaux auteurs dans ces temps-ci. Là, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais il y a de la relève là, beaucoup en littérature jeunesse, donc c'est d'autant plus mérité.
Ah, c'est fin, merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Puis une prochaine fois, peut-être l'année prochaine pour encore le balado.
Oui, c'était vraiment le fun de discuter les trois ensemble. C'était vraiment
le fun. Oui, c'est peut-être trop court. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là. Je vais peut-être faire des balados d'une heure.
On parlera de pédagogie puis de littérature jeunesse.
Oui, ensemble, ça puis de librairie. Là.
Oui.
Tu sais, j'ai l'impression qu'on a effleuré plein de sujets. En tout cas,
on aurait du stock.
Oh, on a du stock. Ah, masse.
Oui.
Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup.
Bye. Merci.
Dans le prochain épisode, je rencontre Paul Roux qui nous parle de son roman « Désert rouge » ainsi que Julie Royer qui nous parle de sa série « Les 4 Z ». C'est un rendez-vous.
Bye-bye.